Bonjour à tous, Barbara sur Radio Campus pour l'émission Quad 9 Doc, l'émission de l'association des jeunes chercheurs Auvergnat, l'association DoctoAuvergne. Je suis ravie d'être avec vous tous ce soir en studio pour un planning haut en couleur, jaune, rouge, brun, mordoré, il y en aura pour tous les goûts. Donc si vous êtes curieux, avide de connaissances et que vous avez envie de passer un bon moment, restez avec nous sur le 93.3. Aujourd'hui, j'accueille en studio Lucille Gély, doctorante en droit public au Centre Michel de l'Hospital, à qui j'ai confié la lourde tâche de réaliser le premier billet d'humeur de la saison. Ce sera le tout nouveau « Dans la tête d'un doc ». Je dis lourde tâche, mais ne vous inquiétez pas trop pour elle. Elle sera à la hauteur, j'en suis sûre, puisqu'elle manie à merveille l'art oratoire, comme elle a pu le prouver à plusieurs reprises dans des concours de plaidoirie. C'est ensuite avec un grand plaisir que nous retrouverons Noémie Mermet, doctorante en neurosciences à l'Université d'Auvergne, et sa chronique « Passe science », chronique très à propos puisqu'elle nous parlera de l'automne. Puis vous découvrirez une fois encore la richesse des recherches menées près de chez vous avec l'interview de Lucie Poulet, doctorante à l'Institut Pascal dans le cadre du projet Mélissa. Elle était déjà venue la saison dernière lors d'un Focus Actu pour nous parler de Philae, le petit robot envoyé sur la comète Chury pour observer la belle planète Mars. Elle revient aujourd'hui pour répondre aux questions d'Arthur Chassagnol, doctorant en mathématiques fondamentales. Il s'agit, vous l'avez sans doute compris, des 8 minutes avec. Alice Julliet, doctorante en droit privé au Centre Michel de l'Hôpital, qui nous a habitués à beaucoup de légèreté, se fera plus sévère ce soir. Non, elle ne nous parle plus de fessée, mais elle consacre sa chronique du jour à une question de société non moins débattue, l'égalité des sexes. Le tout sous un angle particulier, puisqu'elle répondra à cette question lourde de sens, le droit français est-il genré? Enfin, avant de nous quitter, nous ferons le point sur les événements culturels à venir, avec l'agenda des doctorants. Et comme les doctorants ne font jamais rien comme les autres, maintenant que je vous ai annoncé le sommaire, voici le billet d'humeur du jour, c'est dans la tête d'un doc.
Dans la tête d'un doc.
Lorsqu'on m'a proposé de présenter un billet d'humeur de doctorant il y a quelques semaines, j'ai cherché quel sujet pourrait fédérer les thésards de toutes sciences confondues, du mathématicien au juriste, en passant par l'historien ou le pharmacien. J'ai dû rapidement me rendre à l'évidence, nos sujets ne sont pas les mêmes, nos méthodes scientifiques non plus, pas même la couleur de nos toges doctorales une fois que nous les aurons endossées. J'ai donc perdu mon temps et toutes mes certitudes chromatiques en cherchant la différence entre la toge rouge et la toge amarante. Oui, parce qu'il y en a une. L'amarante est en fait un rouge pourpre légèrement plus clair que le bourgogne, très velouté qui tire sur un bordeaux légèrement adouci. Mais fermons cette parenthèse. J'ai donc cherché ce qui pouvait bien distinguer ces deux couleurs, disais-je, afin de comprendre ce qui justifiait une telle différence de traitement vestimentaire entre docteurs. Quand, hier soir à minuit, j'ai achevé ce beau périple sur le site internet des lingettes décolor stop d'eau écarlate, un verre de vin rouge dans une main et des tomates cerises dans l'autre, il m'est soudainement apparu que j'étais peut-être allée un peu trop loin. C'est dans un soupir que j'ai finalement trouvé l'inspiration. Mais oui, bien sûr, c'était d'elle dont j'allais vous parler aujourd'hui, de l'inspiration. Afin de mener une recherche éclairée, il me fallait d'abord définir les termes du sujet. Je me suis précipitée sur le dictionnaire de l'Académie française que j'ai fébrilement ouvert avant de trouver enfin ce que j'allais pouvoir vous dire. Inspiration, nom féminin du latin inspiratio, action de faire pénétrer l'air dans les poumons. Ah, bon, ce n'est pas forcément de cette inspiration-là que je voulais parler. Disons que celle-ci, on ne la perd jamais. Enfin si, mais quand elle est perdue, c'est le problème des médecins, plus vraiment celui des directeurs de thèse. Revenons-en au dictionnaire. Inspiration, non féminin toujours, souffle divin qui anime l'esprit d'une sorte de transport et pousse à quelque action ou suggère quelque discours. Élan qui anime l'écrivain ou l'artiste. Élan qui anime l'écrivain ou l'artiste. Notons que les premiers exemples illustratifs sont attendre, chercher ou manquer d'inspiration. Voilà qui ne semblait pas aller dans un sens très positif. Ayant moi-même quelques difficultés à trouver l'inspiration pour ce billet d'humeur, j'ai confié mes doutes et mes incertitudes à celui qui est à la fois mon moteur et mon confident, celui qui a toujours réponse à toutes mes questions, qui m'écoute quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, Google. J'ai tapé « doctorat et » dans le moteur de recherche, espérant que la masse de mes contemporains, par ses questions les plus fréquentes, allait m'indiquer le chemin à suivre, me montrer la voie. Première suggestion, doctorat et chômage. Deuxième suggestion, doctorat et RSA. Troisième suggestion, doctorat et stage. Décidément, mes pairs ne semblaient pas plus inspirés que moi face au doctorat. Comment vous parler d'inspiration alors que moi-même j'en avais si peu? Abattue et fatiguée, je m'apprêtais à baisser les bras. À quoi bon, après tout? Pourquoi chercher? Pourquoi tout remettre en question? Pourquoi passer plus d'heures de ma vie auprès de Microsoft Word qu'auprès de n'importe quel être humain? J'étais perdue. Perdue comme le vilain petit canard, perdue comme Oedipe, hésitant entre sa mère et sa dulcinée un 14 février, cherchant en vain ce qu'il fallait de regret pour payer un frisson, ce qu'il fallait de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il fallait d'heure assis sur sa chaise pour rédiger sa thèse. Et soudain, j'ai su. Il me suffisait d'imaginer un monde comme celui d'aujourd'hui, pas besoin d'aller à Gotham ou à Sin City, mais un monde où ma thèse aurait apporté quelque chose. Un monde où toutes ces petites lettres que j'avais alignées les unes après les autres, patiemment, avaient changé légèrement la façon dont on percevait certaines réalités. Un monde sans paradis et sans enfer, avec au-dessus de nous seulement le ciel et la sainte table de notre jury de soutenance. Alors maintenant, cher Thésar, petit oiseau sauvage, en quête de la terre ferme, sache que ce monde, c'est celui que nous allons créer si nous nous remettons à rédiger. Alors l'inspiration, il faut la chercher, la provoquer, l'attendre et la poursuivre comme Indiana Jones dans sa mangrove, la machette en moins, ça a tendance à effrayer un peu les voisins, pour enfin pouvoir répondre positivement à cette fameuse question. Alors ta thèse, ça avance ?
Je vous remercie. Challenge relevé haut la main, on peut féliciter Lucille pour ce premier billet d'humeur qui met la barre très très haute. Je n'aimerais pas être le suivant ou la suivante. On te remercie de nous avoir fait le plaisir de faire ce premier billet d'humeur. Et pour clôturer en douceur cette envolée inspirée, quoi de mieux que de surfer sur les notes d'Imagine avec Jack Johnson. Profitez, on se retrouve juste après.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, and above us is only sky. Imagine all the people living for today. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life for peace. And you may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. And you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.
Vous venez de partager un moment tout en douceur avec la reprise réussie d'Imagine par Jack Johnson. Si comme moi, cette chanson vous a donné envie de vous blottir près de la cheminée, ce n'est peut-être pas seulement dû à la voix suave de ce chanteur, mais simplement les effets de l'arrivée de l'automne.
Patience.
Bonsoir Noémie, comment ça va ?
Salut Barbara, bonjour à tous. Bah, ça va très bien, merci. Ça y est, c'est l'automne, hein. Le thermomètre ne cesse de nous le rappeler en se rapprochant des minimales chaque jour. Mais moi, personnellement, j'adore l'automne. L'automne, c'est les soupes aux potirons, c'est les châtaignes, les tartes aux pommes caramélisées, c'est l'odeur de la pluie fraîchement tombée sur les feuilles mortes, c'est les rafales de vent, c'est les cols roulés, le soleil couchant de fin d'après-midi se reflétant sur les couleurs flamboyantes des arbres. Et c'est justement le changement de couleur des feuilles d'arbres qui fait l'objet de ma chronique d'aujourd'hui.
C'est une question intéressante puisque je pense qu'on se l'est tous posé un jour et on se la pose chaque automne et finalement on ne prend jamais le temps de chercher la réponse.
Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qui fait que les feuilles d'arbres passent du vert au jaune, au rouge, puis au marron, amenant à la chute de la feuille ? Alors, commençons par le commencement. Il faut savoir que les arbres vivent et grandissent grâce à un phénomène chimique que l'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, qu'est-ce que c'est ? La photosynthèse, c'est une réaction chimique au cours de laquelle le soleil, en venant au contact de la feuille d'arbre, va transformer l'eau et le CO2, ou dioxyde de carbone, contenu dans la feuille, en énergie sous forme de sucre, plus précisément de glucose, et en oxygène. Quand on dit parfois que les arbres sont les poumons de la planète, c'est parce que, grâce à la photosynthèse, ils absorbent le CO2 et libèrent l'oxygène, indispensable à la survie des espèces animales comme nous. Imaginez que chaque atome d'oxygène que nous respirons provient d'une molécule d'eau dont il a été libéré par la photosynthèse. Maintenant, pour que cette réaction soit possible, il faut que l'énergie solaire soit convertie en énergie chimique. Et cette conversion se déroule dans un microscopique compartiment de la feuille que l'on appelle le chloroplaste. Et sachez que les chloroplastes forment une grande équipe pour rendre possible la conversion de l'énergie solaire en énergie chimique, puisqu'ils sont environ 70 chloroplastes par cellule de feuille, soit environ 5 milliards de chloroplastes par feuille. Donc additionné par le nombre de feuilles d'un arbre, je vous laisse imaginer ce que ça représente. Ensuite, dans les chloroplastes se trouve un élément essentiel à la photosynthèse qui est un pigment vert et que l'on appelle la chlorophylle. Cette chlorophylle étant présente en grande quantité dans la feuille, cela explique le nuancier de vert qui orne les feuilles d'arbre.
Et du coup, à l'automne, qu'est-ce qui se passe ? Elle perd sa chlorophylle, la feuille ?
Oui, en quelque sorte. Ce qui se passe, en fait, c'est que pour être produite, la chlorophylle a besoin de nutriments tels que le magnésium qu'on trouve dans le sol et dans l'eau et qui sera véhiculé des racines jusqu'aux feuilles grâce à la sève, un peu comme notre sang apporte l'oxygène à nos organes. Or, à l'automne, les nuits fraîches et le raccourcissement du jour en faveur de la nuit entraînent la production de substances dans l'arbre, plus particulièrement une hormone qu'on appelle l'éthylène et qui entraîne l'occlusion des canaux véhiculant la sève par la formation d'un bouchon de liège. Ce phénomène est utile puisqu'il permet aux plantes d'entrer dans une forme d'hibernation pour affronter l'hiver. Seulement, la chlorophylle se dégrade sous l'effet de la lumière et ne peut plus être régénérée faute d'un apport suffisant d'éléments nutritifs, puisque la sève ne circule plus dans les feuilles. Sa disparition laisse alors la place à d'autres pigments accessoires de la feuille et qui sont normalement masqués par la chlorophylle. Leurs noms vous diront peut-être quelque chose, il s'agit des carotènes qui sont des pigments orange à rouge que l'on retrouve dans les carottes ou dans les citrouilles. Ce sont aussi les xanthophylles, des pigments jaunes, aussi de la famille des carotènes que l'on retrouve par exemple dans les pétales des fleurs jaunes. Ou encore des anthocyanes qui sont des pigments violets que l'on retrouve dans certains fruits des bois, les mûres, les myrtilles, les prunes ou dans certaines fleurs comme la mauve ou le bleuet des champs par exemple. Du coup, lorsque la chlorophylle n'est plus produite, elle va être remplacée par ces autres pigments accessoires dont la couleur sera d'autant plus vive que la lumière est intense. On pourra alors admirer des rouges chatoyants, des bordeaux sombres mêlés au jaune d'or.
Tout ça pour le plaisir des yeux en automne.
Tout à fait.
Alors, tout ceci nous explique l'évolution de la couleur des feuilles. Mais ensuite, pourquoi est-ce que celles-ci, une fois qu'elles ont subi cette transformation, tombent ?
Alors, rappelez-vous du bouchon de liège dont je vous parlais tout à l'heure. En bouchant les canaux qui véhiculent la sève, les feuilles ne seront plus alimentées en énergie. Elles vont donc épuiser leurs réserves pour s'alimenter et finir par se dessécher et s'envoler au premier coup de vent. D'ailleurs, si vous regardez une feuille morte de plus près, vous pourrez apercevoir cette fameuse couche de liège au niveau de la tige, responsable de la mort de la feuille. Bon, malgré tout, on peut se remonter le moral en gardant à l'esprit que cette mort est nécessaire pour le renouvellement d'un beau feuillage verdoyant au printemps suivant.
Alors pourtant, tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles. Il y en a qui ont, bon, peut-être que c'est plutôt des épines, mais des épines qui ne tombent jamais. Qu'est-ce qui les protège par rapport aux autres ?
Ces arbres, les conifères comme le pin, l'épinette, le cèdre, ont une stratégie différente. Ils possèdent, comme tu l'as dit, des feuilles coriaces et persistantes sous la forme de petites aiguilles. Et ces aiguilles sont recouvertes d'une couche de cire isolante et leurs cellules contiennent des substances qui leur permettent de résister au froid. De cette manière, la plupart des conifères peuvent supporter les pires conditions hivernales. En fait, dans un besoin de régénérescence naturelle, tous les arbustes perdent leurs feuilles. Mais les arbres à feuillage persistant, dont les feuilles vivent plus longtemps, ne le font que par étapes, sur plusieurs années, ou bien d'un seul coup après l'apparition des nouvelles feuilles. L'arbre ou l'arbuste n'est de ce fait jamais dépourvu de feuilles, laissant cette impression de persistance des feuilles.
Merci pour toutes ces informations. Comme tous nos auditeurs, je regarderai les couleurs chatoyantes des arbres d'un œil différent. Pour finir, et sans lien réellement direct avec ta chronique, j'aimerais poser une question par rapport à la chlorophylle. On trouve beaucoup de choses dans le commerce qui parlent de chlorophylle, notamment les chewing-gums goût chlorophylle.
Oui,
est-ce que réellement les feuilles d'arbres et la chlorophylle qu'elles contiennent ont un goût ?
Non, absolument pas. En fait, le goût chlorophylle, c'est une pure appellation commerciale. La chlorophylle extraite sert plutôt de colorant pour donner un aspect vert au chewing-gum, mais en aucun cas un goût, car non, la chlorophylle n'a tout simplement aucun goût. C'est plutôt un goût de menthe ou de menthol que l'on retrouve dans ces chewing-gums. La chlorophylle, on la retrouve sous l'appellation E140 dans les produits de consommation courante, notamment dans les glaces et les confiseries. Maintenant, sachez que certes, ce colorant est naturel, pour autant, il est extrait par des procédés chimiques très douteux en raison de la toxicité des solvants utilisés. Donc pour les amateurs de chewing-gum à la soi-disant chlorophylle, ceux-ci sont à consommer avec modération.
Merci Noémie pour cette précision et cette mise en garde.
C'est toujours un plaisir, Barbara, d'éclairer vos esprits en répondant à des questions qui concernent notre quotidien à tous. Et pour ponctuer cette chronique, je vous propose de vous plonger dans les couleurs automnales en écoutant « À la faveur de l'automne » de Tété.
Posté devant la fenêtre, je guette les âmes isolées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu abandonnes. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme une fredaine de vieille mélodie. Rivé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi, tes allures de garçon rompies un peu la monotonie de mes journées, de mes nuits. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme mon fredaine de vieille mélodie. À la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie ces couleurs de super. Perdu.
Décidément, j'adore la programmation musicale de ce soir. Vous venez d'écouter le titre phare de Tété, À la faveur de l'automne. Ce titre est aussi beau que mélancolique, mais ne vous inquiétez pas, en studio, nous ne sommes pas du tout d'humeur chagrine, bien au contraire. Il est 18h21, nous sommes heureux de passer encore les 40 minutes suivantes avec vous. Préparez-vous d'ailleurs à embarquer sur Mars pour une interview peut-être un peu lunaire. C'est le moment de passer 8 minutes avec Lucie Poulet et de laisser mon micro à Arthur.
Huit minutes avec.
Bonsoir à tous. Donc effectivement, nous avons l'honneur de recevoir Lucie Poulet ce soir. Alors, je vais faire une petite présentation succincte. On a un invité assez particulier aujourd'hui. Vous avez sûrement entendu parler d'une mission d'un an qui sera effectuée à Hawaï dans des conditions de vie sur Mars qui a débuté il y a un mois. Mais ce que vous savez sûrement moins, c'est qu'il y a eu une première mission avant celle-ci d'un an qui a eu lieu en 2014, qui a duré 4-5 mois, je ne sais plus exactement. Et on avait une représentante tricolore dans cette première mission sur Mars qui était Lucie Poulet, notre invitée aujourd'hui. Donc j'ai envie de commencer par cette question. Quel est ton parcours qui a pu te mener dans une mission de telle ampleur internationale? Et peux-tu nous parler un petit peu de cette mission-là?
Bonsoir Arthur, bonsoir à tous, merci. Alors mon parcours et comment ça m'a mené à cette mission-là, donc la version courte, c'est j'ai vu il y a 2 ans un appel à candidature sur le site de l'organisation qui fait ça. J'ai postulé et j'ai été sélectionnée. Bon, la version un peu plus longue, c'est...
Comment on a été sélectionné? Voilà. Pour être sélectionné, ça non. doit être compliqué.
Ce qu'ils nous demandaient, donc, c'était d'avoir un parcours scientifique, d'avoir un niveau master. J'ai fait avant ça un diplôme d'ingénieur aux mines de Nancy. J'ai fait un master en génie aérospatial. Donc ça, c'est découvert. Ensuite, ils nous demandaient d'avoir un projet de recherche pour cette mission, de proposer quelque chose qui allait nous occuper en fait pendant 4 mois, 8 mois ou 12 mois, parce qu'au moment où on postulait, on ne savait pas à quelle mission on allait être assigné. Et on nous demandait bien sûr d'être motivés. Donc moi, j'ai toujours été passionnée par l'espace, par l'exploration spatiale, depuis que je suis toute petite. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie qui touchent à ça. Et ça a probablement contribué à la sélection. Après, dans les faits, ce qui était écrit, c'est qu'ils cherchaient des gens qui ont un profil type astronaute. C'est-à-dire des gens qui, psychologiquement, peuvent tenir, qui, donc, j'ai déjà parlé du CV, et d'un point de vue médical, répondent à certains critères. Donc là, c'était un certificat médical de classe 2. Donc pour ceux qui font de l'aviation, classe 2, c'est... le même certificat médical que pour piloter des avions de tourisme. Voilà, donc une fois tout ça envoyé, enfin donc le test psychologique, un petit test de maths, un petit test d'anglais, on a eu un entretien avec le comité de sélection et c'est comme ça qu'ils ont déterminé quelle personne allait être mise en quel groupe pour quelle mission. Parce que ce qu'ils veulent avoir, en fait, c'est des groupes homogènes entre la mission de 4 mois, 8 mois, 12 mois, pour pouvoir comparer les résultats après.
D'accord, alors j'avais peut-être oublié, donc il y en a eu 3, alors il y en a peut-être une de 8 mois entre-temps, c'est ça?
Oui, en fait, c'est même la quatrième mission. Il y en a une en 2013, mais c'était une étude sur la nourriture, pour savoir quel type de nourriture allait le mieux convenir à une mission de ce type, donc des missions pour l'exploration spatiale, type mission sur Mars. Les missions qui ont suivi, et celle à laquelle j'ai pris part, de 4 mois, 8 mois et 12 mois, c'est une mission qui est une étude... Enfin, ce sont des études psychologiques. Ils regardent la performance et la cohésion de l'équipe au cours du temps. Et ensuite, les différences à noter, ou les points communs entre ces 3 missions, puisqu'ils ont vraiment essayé d'avoir des groupes homogènes, qui normalement devraient se comporter un peu de la même manière, mais avec des durées qui sont différentes. Et voilà, c'est l'objet de ces missions.
D'accord, alors tu nous parles effectivement sur ces missions, en particulier de la problématique de la nourriture dans ces conditions, potentiellement de vie sur Mars. Donc ça me rejoint un peu la suite de cette interview pour parler un petit peu de ton sujet de thèse, parce que tu es bien en thèse à Clermont-Ferrand comme, comme nos doctorants ici présents. Donc le sujet de thèse que je vais annoncer, hein, comme toujours, définition de modèles physiques pour comprendre la croissance des plantes supérieures en environnement de gravité réduite pour des applications en système de support de vie. Donc ma question, c'est un petit peu donc, en quoi consiste ta thèse et puis sur le, justement les conditions de vie de ces astronautes et notamment de leur nourriture. On peut se demander ce que les astronautes mangent dans leur station spatiale. Est-ce que on a des nourritures simplifiées, des trucs en poudre? Est-ce que deux feuilles de salade, un gland et deux poires sont suffisantes? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces conditions-là?
Alors, donc pour répondre à la dernière question sur la nourriture, pour l'instant, les astronautes de la Station spatiale internationale ont des repas tout prêts. Ils ajoutent de l'eau, ils peuvent faire réchauffer, voilà. Ça se limite à ça, ça se cantonne à ça. Nous, on avait une grande variété d'aliments lyophilisés. Et des aliments type pâtes, riz et lentilles, par exemple, qui sont donc des choses qui, enfin des aliments qui peuvent rester stables à température ambiante. Avec ça, on cuisinait la plupart du temps. On cuisinait à tour de rôle et on s'est rendu compte que la diversité alimentaire, c'était quand même très important. On avait aussi une machine à pain, une yaourtière, donc on avait de la diversité. Maintenant, la chose qui amenait aussi de la diversité, c'est le fait que je faisais pousser des salades et des radis. Ça faisait partie de mon expérience, de mon projet de recherche pendant cette mission. Et donc, on avait une assiette de salade et deux, trois radis chacun, toutes les trois ou quatre semaines. Et ça, ça paraît très peu, c'est très peu. On n'avait pas une très grande surface de culture, mais à chaque fois qu'on avait ça, c'était un peu un jour particulier. C'était un jour de fête pour nous. Je reviens à mon sujet de thèse. L'idée derrière mon sujet de thèse, c'est faire pousser des légumes dans l'espace pour que les astronautes puissent se nourrir lors des longues missions spatiales, missions sur Mars, missions sur la Lune. Le projet dans lequel je travaille, c'est un projet de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle MELISSA. MELISSA, c'est un acronyme. Et l'idée derrière, c'est un système clos qui permet de recycler les déchets organiques de l'équipage à l'aide de micro-organismes et de plantes et d'algues. Et ces déchets sont recyclés, ça fait des minéraux, on peut les donner donc à ces algues et à ces plantes supérieures qui vont fournir de la nourriture à l'équipage, recycler l'atmosphère, donc comme l'a dit Noémie tout à l'heure, à partir du CO2 de l'équipage, rendre de l'oxygène, et recycler aussi l'eau, puisque les plantes transpirent, et donc on peut purifier l'eau de cette manière-là. Donc moi, j'apporte ma petite pierre dans ce projet, et je me concentre sur les plantes, et je regarde comment elles poussent en environnement de gravité réduite. Et c'est là-dessus, on fait des modèles, on veut faire des modèles de connaissances pour vraiment comprendre comment elles poussent et pour pouvoir prédire avec précision ces systèmes-là et pouvoir contrôler leur croissance et être sûr qu'on n'aura pas un problème de plantes qui ne poussent plus, qui ont des maladies et plus d'oxygène pour l'équipage, quoi. La survie de l'équipage en dépend.
D'accord, donc c'est super intéressant. Donc Lucie s'occupe de l'avenir de nos futurs astronautes. Donc le sujet est passionnant, on pourrait y passer encore de longues minutes, mais la rubrique touche à sa fin. Donc une petite dernière question sur l'avenir après la thèse, question un petit peu tabou pour beaucoup de doctorants. Donc j'ai envie de te demander, est-ce qu'on a des chances de te revoir dans l'espace, peut-être première femme sur Mars? Est-ce qu'il y a des missions de ce type-là prévues à l'avenir qui pourraient t'intéresser?
Alors, les premières missions de la NASA prévues pour Mars, ils annoncent 2035, donc ce ne sera pas juste après ma thèse. Ouais. Mais je serai peut-être même déjà trop vieille à ce moment-là. Aller sur Mars, c'est sûr que je ne dirai jamais non. Après, que ça se propose à moi, ce n'est pas gagné. Non, après la thèse, j'aimerais continuer dans la recherche, donc avec un postdoc sur ces thématiques. En France, ce sera probablement difficile, mais à l'étranger, il y a beaucoup de groupes qui travaillent sur ces thématiques-là, donc c'est probablement là-dessus que je m'orienterai.
Parfait. Et ben, sur ces mots, on va remercier Lucie d'être venue dans notre émission. Et puis, on va écouter la musique qu'elle a choisie spécialement pour aujourd'hui. Donc, c'est la chanson Space Oddity, chantée par l'astronaute Chris Hadfield lors d'une de ses missions dans une station spatiale.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.
Je vous assure, malgré ce moment psychédélique, vous n'avez pas absorbé de truffes hallucinogènes. Lucie a simplement choisi de partager avec vous une chanson enregistrée par un astronaute. Sur une chanson aussi décalée, accueillant une chroniqueuse un peu décalée aussi, voici la chronique Société en marche.
Dans tout l'Occident, il semblait que la culture fût un ensemble de connaissances ou une forme de raffinement. Mais depuis le début du siècle, la confrontation des grandes cultures de l'humanité a fait de la culture un problème.
Bonjour Alice, comment ça va ?
Bah bien.
Alors, tu nous parles de quoi aujourd'hui ?
Alors, comme tu le disais, je me suis posé la question de savoir si le droit français était trop genré. Par contre, comme tu l'as dit, et ce que je ne ferai pas, c'est vraiment y répondre, parce que c'est une question vraiment trop difficile.
Pour relever le challenge, Alice.
Ouais, bon, bah en tout cas, je vais essayer de vous donner quelques pistes aujourd'hui, et puis vous déciderez vous-même de ce que vous en pensez. Donc, à l'heure actuelle, les discours sur l'égalité hommes-femmes s'enchaînent, se déchaînent, se succèdent et parfois même nous excèdent. On accuse notre société d'être engoncée dans un patriarcalisme écrasant, omniprésent et surtout rétrograde. Et c'est vrai, on ne peut pas le nier, la figure de l'homme dans notre société qui vit sur ses ruines romaines et judéo-chrétiennes contemple confortablement installée l'ascension laborieuse de la gente féminine et de ceux qui ont refusé de se satisfaire de l'immobilisme social. C'est ainsi que le chemin fut long pour que la femme puisse socialement être considérée comme étant aussi capable que l'homme, et pas seulement en proie à l'hystérie. Et oui, comme me l'a rappelé un ami récemment, l'hystérie, ça vient de « hystère », et c'est hystère, c'est la traduction grecque d'utérus. Donc, un homme ne peut pas être hystérique.
J'aimerais bien savoir qui est-ce qui a donné cette définition.
Je pense que tu le sais. Rappelons que lors de son élaboration en 1804, le Code civil consacrait l'incapacité juridique de la femme. Elle était soumise soit à son mari, soit à son père. Ce n'est que progressivement vers la moitié du XXe siècle que les femmes se voient émancipées, avec la réforme des régimes matrimoniaux notamment et l'instauration du divorce, en particulier le divorce par consentement mutuel. Progressivement, les femmes obtiennent les mêmes droits que les hommes, mais, et je vous le dis sans aucune âpreté, ce n'est pas pour autant que la société leur réserve un traitement égalitaire.
On voit bien quand même aujourd'hui que les actions politiques et sociales dites féministes se multiplient. On est allé jusqu'à inscrire dans la Constitution, avec la révision de 2008, une égalité homme-femme pour les mandats, au moins pour les mandats en tout cas. On voit aussi des actions pour la pénalisation des clientes prostituées, la création du ministère du droit des femmes, enfin, il y a pas mal de choses. Est-ce que tu penses que, dans ce cas-là, le droit peut être précurseur de l'évolution de la situation sociale des femmes ?
Alors, les relations entre le droit et la société, est-ce que le droit est précurseur ou est-ce que le droit est reflet de la société ? C'est toujours un grand débat. Mais en ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, quid du prisme féministe dans l'étude du droit ? L'étude féministe du droit est quasiment absente chez les juristes françaises, même on pourrait dire les juristes français parce qu'un homme a le droit d'être féministe, alors qu'elle est très présente chez nos homologues américains. En France, le féminisme est plutôt réservé aux philosophes, aux sociologues, aux psychologues, etc. Le caractère très traditionnaliste des systèmes juridiques du droit civil, par opposition au système de common law, explique peut-être cette situation. Afin de réfléchir sur l'aspect trop patriarcal de notre droit, je vous propose de nous interroger sur le concept de « bon père de famille », qui a été retiré du Code civil en 2014 et qui est à l'évidence une illustration flagrante de ce patriarcalisme.
Oui, en effet, l'évocation du bon père de famille comme concept juridique est assez choquante, surtout si on s'attache un petit peu à l'égalité homme-femme. Alors, son retrait du Code civil montre quand même une certaine évolution juridique, mais malgré tout, est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà ce que c'est que le bon père de famille et pourquoi il est resté jusqu'en 2014, peut-être, dans le Code civil ?
Ben, j'imagine que tous vous avez déjà signé des contrats, en particulier des contrats de bail. Dans un contrat de bail, très souvent, vous vous êtes engagé à occuper les lieux en bon père de famille. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le bon père de famille, c'est ce qu'on appelle un standard juridique. C'est une référence comportementale que l'on attend d'une personne normale. Dans le domaine contractuel, on s'attend à ce qu'une partie à un accord exécute celui-ci comme une personne raisonnable, en bonne intelligence avec l'autre partie. C'est d'ailleurs ce qualificatif de raisonnable qui a remplacé le bon père de famille dans le Code civil en 2014.
D'accord, mais du coup, comment est-ce qu'on peut analyser de manière féministe le concept du bon père de famille ?
Alors ça, c'est aussi très compliqué parce que le féminisme, ça se compose de tout un tas de théories. On pourra dire d'ailleurs qu'il y a autant de féminisme que de féministes. Et les théories se nourrissent les unes des autres et elles mutent, voire même elles se métamorphosent les unes grâce aux autres. Je vais donc essayer de vous en donner un petit aperçu qui mériterait quand même de très gros approfondissements. Pour aborder la question d'abord du père de famille, du bon père de famille, on pourrait d'abord se placer à la lumière des théories dites systémiques, qui se subdivisent en deux catégories. Tout d'abord, le féminisme de symétrie, qui tend à éradiquer toutes les différences de traitement et de perception juridique entre l'homme et la femme. Et ce féminisme de la symétrie se satisferait sans doute de la notion de personne raisonnable en vigueur aujourd'hui. S'oppose à cette volonté de symétrie le féminisme de la différence, qui met en valeur la différence des femmes par rapport aux hommes. Il repose sur le postulat selon lequel notre société patriarcale s'est fondée autour d'une seule figure humaine standardisée, l'homme. Il estime qu'aujourd'hui, il convient d'ajouter les qualités de la femme pour finalement enrichir les relations sociales. Finalement, au caractère responsable et raisonnable de l'homme, on peut ajouter la diligence, l'empathie et la sollicitude de la femme. Finalement, pour l'exécution contractuelle et notre problème du bon père de famille, si on parlait de bon père et de bonne mère de famille, ça reviendrait à devenir très très exigeant avec un co-contractant puisqu'on lui demanderait de satisfaire toutes les qualités des hommes et des femmes.
Alors effectivement, ce sont déjà deux conceptions très différentes que tu viens de nous exposer. Alors pour ma part, je trouve que l'une comme l'autre partent du principe que la femme est un être faible, qu'elle a quand même des qualités qui ne sont pas du tout similaires à celles de l'homme. Est-ce que tu penses que le droit doit corriger cette situation ?
Alors c'est un peu effectivement le reproche qu'on fait aux théories systémiques, de ne pas proposer de vraies redéfinitions de la condition féminine. Les théories radicales, par exemple, s'attaquent au pouvoir d'oppression des hommes et à la subordination des femmes. Comme l'écrit Bourdieu dans La domination masculine, la domination est tellement ancrée dans nos inconscients que nous ne l'apercevons plus, tellement accordée à nos attentes que nous avons du mal à la remettre en question. Le féminisme radical renvoie à une approche un peu marxiste des relations hommes-femmes. Il y identifie une classe homme et une classe femme. Il dénonce le fait que la femme est définie essentiellement par l'homme, par rapport à l'homme, comme l'objet de la sexualité de l'homme, par exemple. Le féminin, c'est l'inverse du masculin. L'une des féministes françaises les plus célèbres, Simone de Beauvoir, qui est la féministe radicaliste française, propose d'ailleurs une redéfinition de la femme, une définition intrinsèque et non comme l'objet de la sexualité de l'homme. Pour en revenir à notre bon père de famille, pour les féministes radicales, il serait seulement dénoncé comme l'une des multiples illustrations de la société androcentrée, mais à la limite, il poserait plus de soucis par la suite.
Alors d'accord, mais une fois encore, j'ai l'impression qu'avec cette lutte des classes à laquelle tu sembles faire référence, on se situe dans la systématisation d'un dualisme homme-femme. Alors qu'il me semble qu'il est largement remis en question aujourd'hui, que la distinction homme-femme devient artificielle quand il s'agit de qualifier des humains qui représentent une réalité bien plus complexe, surtout à l'heure des transgenres, transsexuels, etc.
Oui, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs cet essentialisme qui est beaucoup reproché aux théories que je viens d'aborder. On l'accuse notamment de masquer tous les autres facteurs de stigmatisation. Par exemple, l'appartenance à une minorité sexuelle, ethnique, religieuse. Comme le dénonce Kimberlé Crenshaw dans la théorie de l'intersectionnalité, la femme noire n'a plus sa place là-dedans. Pour faire écho à une œuvre qui m'a marquée, qui n'est pas particulièrement une œuvre féministe, Les identités meurtrières d'Amin Malouf, aujourd'hui, aucune personne ne peut se définir relativement à un seul critère. Donc Barbara, par exemple, tu n'es pas seulement une femme, ou pas seulement française, tu es doctorante, et tu n'es pas seulement l'animatrice de Quad 9 Doc. Tu es tout cela à la fois. Et c'est de la conjugaison de tous ces éléments que naît ta place dans la société et les éventuelles discriminations dont tu souffres.
Oui, je comprends bien, je souffre beaucoup, surtout à cause de vous, mais bon. Pour conclure, comment finalement peut-on faire le tri et se positionner dans toutes ces théories, et en tout cas par rapport à la question que tu nous as posée en début de chronique ?
Alors, à mon avis, la quantité de travaux qui portent sur le féminisme montre bien à quel point cette réflexion doit être universelle. Elle doit être multidisciplinaire, toutes les sciences dites humaines doivent s'y intéresser, mais également, elle doit se situer à chaque niveau de réflexion, qu'il soit théorique, technique ou pratique. Tout cela reflète aussi l'importance primordiale de la discussion, du débat dans l'avancée des idées féministes et des solutions tendant à l'égalité des hommes et des femmes.
Merci Alice. Et j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que certaines de nos chroniques sont disponibles sous format écrit sur notre site internet doctoverne.fr et surtout que vous pouvez y réagir. Donc si la chronique d'Alice vous donne envie de réagir, normalement vous devriez la retrouver sur le site, je ne me trompe pas ?
Oui, c'est prévu, oui.
Alors n'hésitez pas, chers auditeurs, à les commenter et élargir le débat, elle sera ravie de vous répondre. En attendant un tel débat, je vous laisse avec une chanson choisie par Alice, qui, si j'ai bien compris, peut la définir comme de nombreux éléments qu'elle pourrait nous dire d'elle. La chanson, c'est Bad Girl de M.I.A.
When I'm back. chairs when I'm brown. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going not to bitch, I'll see. Coming through, what we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands tight. Don't go screaming if I blow you with a bang. If that's die young bad girls, do it well. If that's die young bad girls, do it well. If that's die young bad.
Ça, on l'a entendu? Alors, c'était clair à la technique. J'admire la pluralité musicale et la bonne humeur qui accompagne ce soir la pluralité scientifique de cette émission, avec toujours quelques petits problèmes techniques, sinon ce ne serait pas Dr. Vern et ce ne serait pas Quad 9 Doc. Vous venez d'écouter Bad Girl de M.I.A. Vous êtes toujours sur Radio Campus pour l'émission Quad 9 Doc, comme je viens de vous le dire. Et maintenant, nous allons faire le point sur les événements culturels clermontois du mois d'octobre. C'est l'agenda des doctorants.
L'agenda des doctorants.
Côté événements culturels, le mois d'octobre est particulièrement chargé, donc je ne vais pas vous présenter tous les événements, mais seulement les événements les plus importants et les plus transdisciplinaires, accessibles à tous. Si vous souhaitez trouver plus d'informations sur les colloques ou conférences liées à chaque discipline, je vous invite plutôt à aller consulter les rubriques actualités de l'Université d'Auvergne et de l'Université Blaise Pascal. Et pour des activités peut-être un peu moins académiques, mais tout aussi intéressantes et enrichissantes, n'hésitez pas à consulter l'agenda de la ville de Clermont-Ferrand. Comme je viens de vous le dire, beaucoup d'événements sur Clermont en octobre, et surtout beaucoup d'événements de grande ampleur dans les semaines qui viennent. Tout d'abord, vous avez sans doute pour la plupart reçu des mails ou vu l'information, il y a les états généraux de la culture. Ils prennent la forme de discussions conviviales et permettent aux participants de débattre par groupe autour d'une thématique et de partager ensuite leurs découvertes. Ces états généraux ont débuté hier, mais il reste 4 possibilités de partager, les 7, 13, 18 et 15 octobre, de 18h30 à 21h. Vous retrouverez les lieux propres à chaque séance sur le site de la ville. Ensuite, du 7 au 11 octobre, comme chaque année, revient la fête de la science. Événement initié par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il a pour but de vous permettre d'explorer le monde à travers les yeux et les compétences des scientifiques. Alors, j'imagine que c'est un petit peu nouveau pour beaucoup d'entre nous d'explorer le monde à travers ce prisme-là. À Clermont, cet événement se traduira notamment par l'ouverture des laboratoires aux collégiens et lycéens le 8 octobre au matin et par l'installation du village des sciences au CESO l'après-midi. Dans ce village, vous pourrez avec Stéphane Calipel devenir ministre de l'économie, avec Charles-André Dubreuil et Raphaël Morel parler du droit d'expression des artistes ou encore découvrir la biologie avec les enseignants-chercheurs du GERD et de Neurodol. Vous pourrez donc découvrir diverses disciplines lors de conférences et d'ateliers particulièrement ludiques. Le 9 et le 10, l'événement continue cette fois avec le Village des Lumières, Place de la Victoire, centré sur les différentes utilisations de la lumière avec une approche toujours transdisciplinaire et ludique. Parallèlement, il y aura aussi cours de sciences et vous pourrez trouver à la salle multimédia de la ville de Clermont-Ferrand du 7 au 10 octobre une approche des grands thèmes scientifiques au cœur de la société contemporaine à travers des séances de court-métrage, puisque je vous le rappelle, Clermont est quand même la ville du court-métrage. Enfin et surtout, qu'est-ce que serait Clermont sans ses étudiants? Avec près de 400 000 étudiants pour 260 000 habitants, elle se doit donc de les célébrer. C'est avec plaisir que donc revient cette année, du 8 au 15 octobre, le célèbre événement Clermont fête ses étudiants. Vaste programme sur cette semaine riche en animations. Je vous invite donc à aller consulter la liste des événements sur le site de la ville ou des universités, puisque vous pourrez profiter d'événements aussi bien musicaux, cinématographiques, sportifs ou nocturnes. Grosse nouveauté toutefois cette année, pour sa 20e édition, l'événement installe un village étudiant sur la place de Jode du 12 au 15 octobre, où vous pourrez assister à la projection de courts-métrages, à des conférences sur la culture, à la diffusion en direct de certaines émissions de Radio Campus. Vous pourrez aussi participer à une grande truck party pour refaire votre garde-robe, un photocall ou même une flash mob. C'est aussi l'occasion de venir faire connaissance avec plusieurs associations de la région, dont Doctoverne, qui tiendra un stand toute la semaine. Et vous pourrez aussi passer la soirée en toute quiétude. La ville a pensé à tout, puisque vous pourrez vous restaurer et vous piquer la truffe en bonne et due forme, place de Jode. Revenons quand même un petit peu plus précisément sur les associations de Doctoverne, puisque je vous rappelle que c'est l'association qui organise l'émission. Alors, si je ne me trompe pas, l'association sera présente de 17h à 21h tous les soirs de la semaine. Et certains des personnes présentes sur le plateau proposent des animations pendant ce Clermont Fête ses étudiants. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Lucie, je te laisse commencer. Dans l'ordre chronologique, Lucie sera présente le lundi soir, il me semble. Donc.
Oui, c'est ça. Le lundi soir de 17h à 21h. Et en fait, on est plusieurs doctorants dans mon labo à travailler sur le thème dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on aura quelques petits échantillons de nos recherches à vous montrer, de la spiruline, parce que c'est un de nos doctorants qui cultive ça. On aura quelques plantes pour ma recherche et des posters explicatifs. Donc si vous voulez passer, ça nous fera très plaisir.
Puis en même temps, si les gens ont plus de questions à te poser sur ton sujet de thèse, c'est peut-être l'occasion de venir te rencontrer.
Voilà, c'est ça.
Arthur. Bien, du coup, moi, le mardi soir, j'ai le défi d'essayer de parler de maths au grand public, à tous ceux désireux d'en savoir plus qui passeront à Jode mardi prochain. Donc, je vais essayer de vous initier à quelques petites curiosités derrière lesquelles se cachent de nombreux résultats mathématiques, que ce soit du chou romanesco ou des flocons de neige avec leur structure fractale ou des petits tours de mathémagie, comme on dit, ou certains phénomènes géométriques derrière lesquels se cachent des petits résultats intéressants.
Au-delà de ça, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les actions de Doctoverne, ça peut être l'occasion de venir nous voir sur les projets qui vont être menés, si vous voulez monter des projets, si vous voulez venir participer à l'émission de radio également, que ce soit pour présenter vos recherches ou pour proposer une chronique, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, du coup, du 12 au 15 octobre, place de Jode, sur un stand de 17h à 21h. Alors, même si le mois d'octobre est très chargé, comme je viens de vous le dire, n'oubliez quand même pas de venir nous retrouver dès le 21 octobre à 18h au 93.3 pour une nouvelle émission de Quoi de Neuf Doc. Vous pouvez également nous écouter en podcast sur le site de la radio www.campus-clermont.net, sur le site de Doctoverne www.doctoverne.fr ou encore sur le Facebook de l'association. En attendant, il est déjà l'heure de nous quitter, mais on se retrouve bientôt. Bye bye à tous!
Quoi de neuf, Doc ? L'émission de Doc Auvergne, un jeudi par mois, 18h-19h. Sur Radio Campus Clermont-Ferrand, 93.3 et sur le net, www.clermont-campus.net.
Allergique à la dose homéopathique, car j'entends trop souvent t'es doux.